voici maintenant à ce troisième temps fort qui nous prépare à Noël. Encore nous nous mettons à l'école de Greccio, à l'école de Saint François, et nous ouvrons notre cœur à la grâce simple de l'émerveillement, du merci devant le don de Dieu qui se fait petit enfant. C'est ainsi que le pape François termine une lettre apostolique qu'il a écrite à Greccio le 1er décembre 2019. Cette année, nous célébrons les 8 siècles, les 800 ans du premier Greccio, de la première crèche vivante. Alors, puisons dans cette lettre apostolique du pape François quelques éléments magnifiques pour vivre le mystère de Noël. Par cette lettre, dit le pape François, je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, maintenant, préparent la crèche. C'est vraiment un exercice créatif parce qu'on utilise les matériaux les plus variés pour créer des vrais chefs-d'œuvre de beauté. Et dans la petite enfance, on l'apprend, quand papa et maman, ensemble avec les grands, transmettent cette habitude joyeuse si riche et si populaire. Je souhaite, dit le pape, que cette pratique ne se perde pas et que là où elle est un peu tombée, elle puisse être revitalisée. Alors l'origine de la crèche, évidemment, se trouve dans l'Évangile, dans la naissance de Jésus à Bethléem. Saint Luc dit simplement que Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Jésus est couché dans une mangeoire, dans une crèche. En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l'endroit où les animaux vont manger. Et la paille, elle devient le premier berceau pour celui qui dira qu'il est le pain descendu du ciel. La crèche contient vraiment ces mystères de la vie totale de Jésus et nous les rend proches. Alors, juste un petit rappel du vrai Greccio. Donc, Saint François était allé le 29 novembre 1223 auprès du pape et le pape Honorius III avait confirmé sa règle de vie. Et quand il était revenu de Terre Sainte, il avait encore dans sa mémoire, dans ses yeux, Bethléem. Et c'est tout cela qui a comme provoqué en lui ce désir qu'il a exprimé au pape de vivre Greccio. Alors, pourquoi, s'interroge le pape, la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement en nous? Eh bien, elle manifeste la tendresse de Dieu, lui, le créateur de l'univers, s'est abaissé à notre niveau. Le don de la vie, évidemment, il fascine toujours. On se penche sur n'importe quel tout petit nouveau-né et on est ému. Et là, celui qui est né de Marie, il est la source de notre propre vie. Le Père nous a donné en Jésus un frère. Il vient nous chercher quand on est désorienté. Il est aussi un ami. Il est toujours avec nous. Il nous a donné son Fils qui nous révèle notre péché pour nous le pardonner. Et donc, faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire de Bethléem. Bien sûr, l'Évangile est toujours la source pour méditer sur cet événement, mais le représenter par une petite crèche dans nos familles nous aide à c'est comme si ça stimulait notre affection. Et puis aussi, eh bien, ça nous implique dans cette histoire de notre propre salut. Et c'est une aussi, par Saint François, une invitation à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même et pour sa Sainte Mère. Donc c'est aussi un appel à le suivre sur ce chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement qui va être vécu par Jésus de la mangeoire de Bethléem jusqu'à la croix, de la crèche à la croix. Et puis, c'est aussi un appel à servir Jésus dans tous les pauvres. Je laisse, c'est toujours encore le pape qui parle. J'aimerais passer en revue les différents signes de la crèche. Alors, en premier lieu, le ciel étoilé dans l'obscurité et dans le silence de la nuit. C'est pas seulement par fidélité au récit évangélique que nous faisons aussi, mais parce que ça signifie quelque chose. Les nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie, eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas. Il se rend présent pour répondre aux questions qui concernent le sens de notre existence. Mais qui je suis? Mais d'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis née? Pourquoi est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je vais mourir? Et pour répondre à ces questions, Dieu s'est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres. La lumière, dit Saint Jean, dans le prologue, elle est venue dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'empêcher. Puis alors, les paysages qui font partie de la crèche, ils méritent aussi qu'on les relève parce que souvent, on voit les ruines d'anciennes maisons ou de palais. Et ces ruines, eh bien, elle représente aussi le signe de notre pauvre humanité en ruine, de ce qui autour de nous et en nous est triste, corrompu. Mais Jésus, il est comme une nouveauté au milieu de ce vieux monde. Il est venu reconstruire pour ramener nos vies à leur splendeur de l'origine. Et alors, on ajoute quelquefois à notre crèche des ruisseaux d'eau, des moutons, des bergers. Et nous nous souvenons que les prophètes l'avaient annoncé et que toute la création participe à cette fête de la venue du Messie. Les anges, l'étoile de Bethléem. C'est le signe que nous sommes appelés, nous aussi, à nous mettre en route pour le chercher et pour l'adorer. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Voilà ce que disent les bergers après l'annonce faite par les anges. C'est un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité de cette description. Contrairement à tant de personnes occupé à faire mille choses. Les bergers, eh bien, ils sont les témoins de l'essentiel, c'est-à-dire Dieu me sauve. Ils sont les plus humbles, les plus pauvres. C'est eux qui savent accueillir cet événement. À Dieu qui vient à notre rencontre dans ce petit enfant, Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers lui et ils sont étonnés, reconnaissants. Ils ont rencontré l'amour. Et c'est cette rencontre entre Dieu et ses enfants en Jésus qui constitue la beauté unique de la crèche et de notre foi. Et puis, dans nos crèches, nous avons aussi l'habitude de mettre des santons, par exemple des mendiants, des personnes qui ne connaissent pas encore la joie d'être comblées. Et on les met tout proche de l'enfant Jésus sans que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau, parce que les pauvres ont entouré Jésus. Ils sont les privilégiés. Et ces pauvres et ces simples rappellent que Dieu s'est fait homme pour ceux qui attendent de l'approcher. Jésus est doux et humble de cœur. Il est né pauvre. Il a mené une vie simple. Et rien ne nous trompe dans la crèche. Il n'y a rien d'éphémère. Le palais d'Hérode est sourd à l'annonce de cette vraie joie. En naissant dans la crèche, Dieu commence une vraie révolution qui donne dignité aux marginalisés. C'est la révolution de l'amour, de la tendresse. De la crèche, Jésus a proclamé avec une douce puissance qu'il veut partager ce chemin vers un monde fraternel aux plus petits. Souvent, les enfants aiment ajouter à la crèche des figurines qui ne sont pas du tout dans l'Évangile. Par exemple, le forgeron, le boulanger, le musicien, la femme qui porte une cruche d'eau. Et ça représente en fait la sainteté au quotidien, la joie d'accomplir les choses de la vie courante quand Jésus vient partager sa vie divine avec nous. Et puis peu à peu, la crèche nous conduit à l'intérieur de cette grotte où il y a Marie et Joseph. Marie, cette maman qui contemple son nouveau-né et qui le montre à ceux qui viennent le voir. Et nous pensons au grand mystère qui a impliqué Marie quand Dieu a frappé à la porte de son cœur immaculé, à l'annonce de l'ange qui lui demande d'accepter de devenir mère de Dieu. Et Marie répond avec une obéissance entière. « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Quel magnifique témoignage! Marie nous apprend à nous abandonner dans la foi, à la volonté d'amour de Dieu sur nous. Avec ce oui, Marie devient mère du Fils de Dieu et elle ne perd pas sa virginité. Elle est la mère de Dieu qui ne garde pas Jésus pour elle. Elle demande à chacun d'entre nous, à son école, de prononcer notre oui. Et puis à côté de Marie, dans une attitude de protection de l'enfant et de sa maman, se trouve Joseph. Il est généralement représenté avec le bâton à la main, quelquefois avec une lampe. il joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. Et quand Dieu l'avertira de la menace d'Hérode, il n'hésite pas à voyager pour émigrer en Égypte. Et ce n'est qu'une fois le danger passé qu'il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus enfant et adolescent. Joseph porte dans son cœur le grand mystère qui enveloppe Jésus et Marie, son épouse. Et en homme juste, ça veut dire en homme ajusté à Dieu, il se confie à la volonté de Dieu et la met en pratique. Alors évidemment, la crèche, elle commence à être vivante quand le soir de Noël, nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Ça semble impossible, mais c'est comme ça. En Jésus, Dieu a été un enfant. Et c'est dans cette condition qu'il a voulu révéler la grandeur de son amour, qui se manifeste dans ce sourire et ses petites mains tendues vers nous. La naissance d'un enfant, c'est l'émerveillement. C'est le grand mystère de la vie. Quand on voit briller les yeux des jeunes mariés devant leur enfant premier-né, on comprend et ces jeunes époux comprennent les sentiments de Marie et de Joseph qui regardent l'enfant Jésus et qui ont perçu la présence de Dieu dans leur vie. La vie s'est manifestée. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire. Et la preuve, c'est que nous numérotons les années en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Nous sommes en 2023, après la naissance de Jésus-Christ. La manière d'agir de Dieu, c'est presque une question de transmission. Il semble impossible qu'il renonce à sa gloire pour devenir un homme comme nous. Quelle surprise de voir Dieu adopter nos comportements. Il dort, il tète le sein maternel, il pleure, il joue comme tous les enfants. Dieu nous déconcerte, il est imprévisible et son projet dépasse infiniment nos attentes. Et ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie, insérée dans celle de Dieu. Elle nous invite à devenir ses disciples pour arriver jusqu'au sens ultime de notre vie. Alors quand va s'approcher la fête de l'Épiphanie, nous ajouterons dans la crèche les mages. Eh bien, en observant l'étoile, ces sages et riches seigneurs de l'Orient s'étaient mis en route vers Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Et ces dons, ils ont une signification. L'or, c'est honorer la royauté de Jésus. L'encens, c'est honorer sa divinité. La myrrhe, honorer sa sainte humanité qui connaîtra la mort et le tombeau. En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur notre responsabilité de chrétien, à être évangélisateur, à porter la bonne nouvelle pour tous ceux que nous allons rencontrer. Les mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin et trouver Jésus. Ce sont des étrangers, ils sont assoiffés d'infini. Ils entreprennent un long et dangereux voyage jusqu'à Bethléem. Mais quelle joie les envahit devant l'enfant roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par sa pauvreté. Ils n'hésitent pas à se mettre à genoux, à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que tout comme Dieu, qui règle avec sagesse le mouvement des étoiles, Dieu guide le cours de notre histoire. Et de retour dans leur pays, ils partagent cette rencontre du Messie. Et c'est comme ça que commence l'évangélisation des nations. Et devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions avec impatience le moment de commencer à la mettre en place. Et ces souvenirs nous poussent à prendre conscience du plus grand don qui nous a été fait, le don de la foi. Et nous prenons conscience du devoir de faire participer nos enfants, nos petits-enfants, à cette expérience. La façon d'installer la mangeoire, elle n'est pas importante. Elle peut toujours être la même ou différente chaque année. Ce qui compte, c'est que ça ait une signification dans notre vie. La crèche parle de l'amour de Dieu qui s'est fait enfant, pour nous dire combien il est proche de chaque être vivant, quel qu'il soit. Chers frères et sœurs, termine le pape, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l'enfance et à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, fils et frère, grâce à cet enfant qui est fils de Dieu et de Marie, et à en éprouver tant de bonheur. La magnifique grâce de Noël, de la naissance au milieu de nous de Jésus, portera du fruit en chacun d'entre nous. En tout cas, la plus jeune docteure de l'Église, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, raconte dans « Histoire d'une âme » au chapitre 5 l'étonnante grâce de Noël que Jésus lui a accordée. Elle a 14 ans. Elle écrit. Et ce qu'elle nous écrit peut nous étonner, parce que Thérèse est en vérité et elle nous dit comment, à l'âge de 14 ans, elle n'était même pas habituée à faire son lit. On la traitait comme un bébé et elle se comportait comme un bébé, alors qu'elle rêve d'entrer au Carmel à 15 ans. Écoutons Thérèse. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre où nous couchions ensemble et moi, je ne faisais aucun travail de ménage. Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit, ou bien d'aller en l'absence de Céline, rentrer le soir ses pots de fleurs. Comme je l'ai dit, c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Et donc, je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et le lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute, au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte. Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière, en cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour. Il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes. Et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire. Et je commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance. Que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait avoir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. « Enfin, heureusement que c'est la dernière année !» Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser. car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Ô Thérèse, me dit-elle, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était lui aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie de grâce du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans. Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne m'a fait défaut.
Même si tu me conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi. Seigneur, laisse arriver ce que tu veux. Je suis prête. Même si jamais tu ne me rassasies,
miracle de Noël que Jésus a réalisé pour la petite Thérèse, il veut le réaliser pour chacun d'entre nous. Comment va-t-il faire? Eh bien, là encore, le pape François nous donne la lumière. À l'occasion des 150 ans de la naissance de Thérèse, il a écrit une lettre apostolique daté du 15 octobre 2023, qui commence par ces mots « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Thérèse, elle est une des saintes les plus connues et les plus aimées dans le monde entier, comme saint François d'Assise. Comme François, elle est aimée par les non-chrétiens, les non-croyants. Alors, quel est ce message que François et Thérèse, ces deux âmes d'évangile, ont à nous dire pour aujourd'hui? Une des découvertes les plus importantes de Thérèse, c'est sa petite voix, la voix de la confiance et de l'amour, la voix de l'enfance spirituelle. Tout le monde peut la suivre, dans tout état de vie, à chaque moment de l'existence. C'est la voix que le Père Céleste révèle au tout petit, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé au tout petit. Thérèse raconte, je cite évidemment la lettre apostolique du pape François. Thérèse raconte sa découverte de la petite voix dans Histoire d'une âme. Je puis, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie, bien droite, bien courte, toute nouvelle. Et pour la décrire, Thérèse utilise l'image de l'ascenseur. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Petite, ça veut dire incapable d'avoir confiance en elle-même, mais totalement confiante en la puissance aimante des bras du Seigneur. C'est la douce voix de l'amour ouverte par Jésus aux petits et aux pauvres. C'est le chemin de la joie parfaite, de la vraie joie. La confiance illimitée de Thérèse encourage tous ceux qui se sentent, c'est-à-dire chacun d'entre nous, fragiles, limités, pécheurs. C'est un encouragement à nous laisser transformer. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites, dit Thérèse, sentaient ce que sent la plus petite de toutes, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de l'amour. Puisque Jésus ne demande pas des grandes actions, il demande l'abandon et la reconnaissance. La pleine confiance qui devient abandon dans l'amour nous libère de nos calculs obsessionnels, de la constante inquiétude pour l'avenir, des peurs qui enlèvent notre paix intérieure. Dans les derniers jours de sa vie, Thérèse insistait sur ce point. Nous qui courons dans la voie de l'amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, parce que ça veut dire que nous manquons de confiance. Si nous sommes entre les mains d'un Père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances, nous nous en sortirons quoi qu'il arrive, et d'une manière ou d'une autre, son plan d'amour et de plénitude d'amour se réalisera dans notre vie. Dans la foi, Thérèse vit intensément une confiance illimitée en la miséricorde infinie de Dieu. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Même dans l'obscurité, Thérèse vit la confiance totale de l'enfant qui s'abandonne sans crainte dans les bras de son père et de sa mère. Pour Thérèse, Dieu brille avant tout par sa miséricorde. C'est la clé pour comprendre tout ce qui est dit de Jésus. Thérèse dit : « À moi, Jésus a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple les autres perfections divines. alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que toutes les autres, me semble revêtue d'amour. C'est une des découvertes les plus importantes de Thérèse, une de ses plus grandes contributions pour le peuple de Dieu. Thérèse est entrée de manière extraordinaire dans les profondeurs de la miséricorde divine et elle a puisé la lumière de son espérance sans limite. Thérèse est consciente du drame du péché, mais elle a la certitude que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit saint Paul aux Romains. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, la miséricorde du Rédempteur est infinie. Et Thérèse est témoin de la victoire de Jésus sur toutes les forces du mal, par sa naissance, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et elle ose écrire « Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes et qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Mais je veux par là te réjouir et te consoler. » Mais ce qui est le plus beau dans le message de Thérèse, c'est vraiment la charité. Thérèse vit la charité dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. Elle le fait en compagnie de la Sainte Vierge, en apprenant d'elle qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà le message que Thérèse nous enseigne pour que nous puissions vivre pleinement la grâce de la nuit de Noël. Voici maintenant notre petit conte. Il s'intitule « La dernière visiteuse ». L'histoire se passe à Bethléem, à la pointe du jour. L'étoile vient de disparaître. Le dernier pèlerin a quitté l'étable et Jésus s'est endormi. Doucement, la porte s'ouvrit. Poussé, eût-on dit, par un souffle plus que par une main. Et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que dans son visage couleur de terre, sa bouche semblait n'être qu'une ride de plus. En la voyant, Marie prit peur, comme si ça avait été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureusement, Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur paille et regardaient s'avancer l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que s'ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles. La vieille continuait d'avancer. Et voici maintenant qu'elle était au bord de la crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël ? Soudain, il ouvrit les paupières. Et Marie, sa maman, fut bien étonnée de voir que les yeux de la femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même espérance. La dernière visiteuse se pencha alors sur la paille, tandis que sa main allait chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu'elle sembla mettre des siècles à trouver. Marie la regardait toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans surprise, comme si elle savait par avance ce qui allait arriver. Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit par tirer de ses hardes un objet caché dans sa main et elle le remit à l'enfant. Après tous les trésors des mages et les offrandes des bergers, quel était ce présent ? D'où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. Elle voyait seulement le dos courbé par l'âge et qui se courbait plus encore en se penchant sur le berceau. Mais l'âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne s'étonnaient toujours pas. Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Sa tête touchait presque le chaume. Son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s'écarta de la crèche pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu'était son mystérieux cadeau. Ève, car c'était elle, venait de remettre à l'enfant une petite pomme, la pomme du premier péché et de tant d'autres qui suivirent. Et la petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec lui.